divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Aya Sissoko, bonjour.
Bonjour.
Les auditeurs de France Culture qui nous écoutent fidèlement savent depuis 2011 et la sortie de votre premier ouvrage chez Calman Levy, Dambé, qui vous êtes. La championne du monde de boxe anglaise en 2006 qui est devenue écrivaine et comédienne. Vous avez en effet écrit Dambé à quatre mains avec Marie Desplechin, puis vous avez écrit seul Nba. Magnifique ouvrage sur votre mère, Nba signifiant mère en bambara, ouvrage paru en 2016, toujours chez Calman Levy, et aujourd'hui vous venez de publier Au Seuil, au nom de tous les tiens, magnifique ouvrage également dont je ne saurais trop recommander la lecture aux auditeurs de France Culture et sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Alors peut-être une remarque sur votre rapport à l'écriture, Aya, qui scande les moments essentiels de votre vie. Et l'on pourrait dire, reprenez-moi si je me trompe, que vous avez écrit Dambé pour évoquer votre parcours, celui de la fillette heureuse et libre de Ménilmontant qui rencontre les drames, les morts, et qui va tenter de les surmonter tête haute et poings serrés. Vous avez ensuite écrit Nba pour rendre hommage à votre mère, Massira Dansiré, si présente dans tous vos ouvrages jusqu'à ce dernier, et qui, en 2016, venait de disparaître un an après la naissance de votre fille. Aujourd'hui, vous écrivez au nom de tous les tiens une adresse à votre propre fille où vous croisez les deux traditions qui la constituent, la lignée des guerrières Bambara, dont vous faites partie, et celle des Juifs ashkénazes qui, au XIXe siècle, ont fui l'Ukraine, lignée de son père. Aujourd'hui, à l'analyse et à la compréhension des épreuves, s'ajoute, me semble-t-il, une perception plus politique de ce qui vous est arrivé à vous, Aya, et à tous ceux qui forment la parentèle de votre fille, à tous les siens. Hommage à Martin Gray, dans ce beau titre, Le communautarisme en moins.
Ben oui, enfin, ce troisième ouvrage, c'est en quelque sorte celui de la maturité, de l'émancipation. C'est celui met un terme à un long parcours initiatique. C'est aussi une forme de passage de relais à ma fille. C'est-à-dire, lui dire que oui, sa mère a parcouru déjà un bon bout de chemin, et qu'il lui revient de prendre la suite, mais qu'il est nécessaire qu'elle prenne ce bagage avec elle pour la protéger, pour la guider, pour l'accompagner dans l'existence qui sera la sienne.
Peut-être pour la lester aussi, parce que ce livre est difficile, non pas difficile à lire, il est très bien écrit et se dévore d'une traite, mais difficile parce qu'il contient la colère, la douleur, et l'on sent bien à le lire qu'il est écrit, comme vous le dites d'ailleurs, comme en apnée, en travaillant sur les silences.
Effectivement, c'est un livre qui a été écrit d'une traite, qui répondait à une forme d'urgence, parce qu'il y a la peur de l'oubli. En fait, je suis faite la dernière, enfin, qui fait le lien entre ma mère qui est née au Mali et moi qui suis née en France. Donc il y a aussi la perte de la langue maternelle. Et il y avait véritablement en fait cette ambition en fait de tout fixer pour pas que cette histoire se perde. Et pour le coup, c'est vrai que l'histoire est peut-être dense, qu'elle est difficile. Mais au contraire, c'est cette volonté aussi de faire cette économie à ma fille. C'est-à-dire que nous avons dû en fait nous construire en reconstituant en fait justement ces histoires, en rassemblant, en reconstituant le puzzle. Mais ma fille, au fait, n'aura pas à faire ce travail-là. C'est-à-dire que ce matériel sera à sa disposition, elle s'en emparera ou pas. libre à elle. Mais en tout cas, si elle est en quête d'identité, en quête de savoir de qui sont les siens, voilà, ce matériel sera à sa disposition. Et je pense que c'est un cadeau formidable que l'on fait à nos enfants, de raconter qui sont les siens, à quelle filiation on appartient. C'est aussi véritablement une manière, justement, de les construire, qu'ils soient solides et qu'ils se concentrent, justement, à se construire et à construire leur existence.
En ayant précisément levé les silences. Hein. C'est ça que vous me dites sur... Non, je ne leste pas ma fille.
Au contraire, je la libère, je l'allège. Parce que de toute façon, cette histoire, elle nous appartient, en fait. Elle m'appartient à moi, elle appartient à celles et ceux qui m'ont précédée. Je veux dire, en fait, elle sera libre, de faire sa vie, et ça, c'est vrai, c'est très important, de le dire, de le répéter et de le lui dire à elle. À côté de ça, c'est vrai que pour moi, en fait, il est tout de même très difficile et même risqué, en fait, de construire demain sans s'asseoir aussi sur ce passé, sur le legs qui est le nôtre. En fait, l'histoire a la fâcheuse, habitude de se répéter. Et il va falloir aussi être vigilant, en fait, penser le présent, penser demain, comment se construit justement, en fait, les rapports individuels, la vie en collectivité, quels sont les dangers, au fait, aussi
politiques,
parce que la bête immonde est encore féconde.
Oui, nous sommes au lendemain d'élections qui
exactement
montrent quelque chose de l'ordre d'une peste brune renaissante.
Et donc voilà, son histoire, c'est aussi ça, c'est aussi la Shoah, c'est et donc voilà, vis ta vie, mais reste vigilante.
Ce livre, ouvertement politique, analyse justement les politiques migratoires et les agissements policiers. Et on peut lire vos dénonciations à quelques-unes des phrases qui scandent de façon délibérément répétitive votre texte. « Être un enfant ne protège pas », »,« ça ne vous a pas protégé », »,« ça n'a pas protégé » ou « ça ne protège pas aujourd'hui » vos neveux, ou être français ne protège pas ni les Sissoko ni les Sherman, à commencer par l'irrespect des identités et des noms. Est-ce que vous pourriez éclairer ceci, Alia Sissoko?
C'est vrai que, en tout cas pour ma part, les parents ne savaient ni lire ni écrire. Et donc, l'orthographe de mon nom n'est pas la bonne. Mm-hmm. C'est-à-dire que Sissoko aurait dû s'écrire avec un S, S-I-2-S-O-K-O. Donc, dorénavant, c'est avec un C.
Parce que l'administration française en a décidé ainsi?
Parce que l'administration française en a décidé arbitrairement ainsi. Donc, je ne suis pas la seule. C'est quelque chose d'assez habituel. D'ailleurs, dans le livre, je reviens aussi sur le fait que les dates de naissance sont le 1-1, le 1er janvier, le premier jour de l'année, pour toutes celles et ceux, justement, qui ne maîtrisaient pas la langue du pays d'accueil.
Donc, beaucoup de travailleurs immigrés sont nés arbitrairement
le 1er janvier. Et de la même manière, on nous en orthographiait de manière très, très arbitraire nos noms.
C'est vrai aussi pour les Sherman.
C'est vrai aussi pour les Sherman, parce qu'il me semble effectivement que c'est S-H-E-R-M-A-2-N et que ma fille s'appelle C-H-E-R-M-A-2-N.
Mm-hmm. Pour les mêmes raisons.
Pour exactement les mêmes raisons.
Alors, il me semble que dans ce travail de transmission que vous faites au nom de tous les siens, vous voulez n'oublier ni les lieux, ni les gens, ni les événements. Alors, vous décidez de les mettre au creux de vos mots, de vos livres, pour des raisons personnelles et des raisons politiques, pour rompre, vous le dites vous-même, avec un certain individualisme aveugle à ce qui est commun.
On vit dans un contexte totalement hystérisé où les gens ne s'écoutent plus, où on n'a plus conscience des trajectoires, du quotidien, d'autres individus que l'on côtoie. Et il y avait cette volonté de ma part de réhabiliter toutes ces figures que l'on n'entend pas, à qui l'on confisque arbitrairement la parole. Le arbitraire revient très très souvent dans notre discussion. Mais c'est dire qu'ils existent, qu'ils sont légitimes, et que leur attitude, leur vie au quotidien, leur résistance, en fait, sont héroïques. Et puis, c'était aussi une manière de, en tant qu'auteur, en fait, voilà, j'ai ce pouvoir aussi de choisir mes héros et mes héroïnes. Et donc, voilà, mon choix s'est porté, en fait, sur ces personnes
invisibilisées,
exclues de la narration, de la belle et grande histoire, et pourtant qui ont eu des rôles essentiels. Voilà, ce sont des essentiels, des individus, des personnes essentielles.
Vous pourriez l'illustrer en pensant à ma Ciré.
Ma Ciré, c'est une femme qui quitte le Mali au milieu des années 70 dans le cadre de regroupement familial, aussi parce que la France le 3 juillet 74 décide de fermer ses frontières dans un contexte de crise économique. Et donc les hommes qui avaient l'habitude de faire des va-et-vient entre le pays d'origine et l'Hexagone, de peur que les entrées d'argent s'arrêtent, font venir les épouses.
Donc, c'est dans une politique de regroupement familial.
Dans une politique de regroupement familial. Donc mon destin français n'est comme ça. Et donc le Mali, en fait, le Mali, c'est le paradis perdu de ma mère.
C'est le paradis perdu.
C'est son paradis perdu.
Absolument.
C'est-à-dire qu'elle ne fait pas le choix de venir en France.
Qu'elle le subit.
Elle le subit. C'est un pays qu'elle n'aimera jamais véritablement. Parce que c'est nécessaire de le répéter. En fait, on ne quitte jamais famille et patrie par plaisir. D'autant plus que ces hommes et femmes n'ont pas la garantie du retour.
Elle ne l'a pas eu.
Et elle ne l'aura pas.
Et elle a choisi aussi de ne pas revenir de force.
Exactement.
Au Mali, ce qui était l'expression de sa liberté. Mais quand je parlais de votre mère, je pensais justement à ce travail d'invisible, de ceux qui travaillent à l'heure où les autres ne sont pas arrivés.
On est d'accord. C'est donc ma mère était femme de ménage, donc elle se levait très très tôt le matin. Pour aller nettoyer les bureaux, les toilettes, de salariés dont on estimait la valeur ajoutée plus importante. Et elle y retournait le soir après leur départ. Et donc c'était parfois 6 jours sur 7 comme ça, parce qu'elle cumulait plusieurs contrats afin de pouvoir finir le mois et payer ses factures et pour qu'on ne manque de rien, nous, ses enfants. Et donc voilà, c'était important de dire ces trajectoires, de dire ces hommes et femmes, et de dire le caractère essentiel de leur travail, parce que ce sont des individus dont on voit en fait l'impact très immédiatement. Ce sont pour beaucoup donc ce sont des femmes de ménage, mais ce sont aussi des hommes et des femmes qui s'occupent des personnes âgées, qui c'est aussi beaucoup d'aides-soignantes en fait, d'infirmiers. Ceux qui font tourner la société. On a pu le constater pendant le confinement.
Oui. Et précisément, votre travail consiste à mettre au jour ceux qui sont invisibilisés, jamais reconnus, jamais vus, évités, rejetés. Ceux dont vous dites qu'ils doivent résister à la folie en mettant en place des stratégies quotidiennes pour ne pas perdre leur dignité.
En tout cas, parce qu'après l'histoire familiale est assez complexe, et c'est vrai que il a fallu continuellement s'accrocher de manière à ne pas perdre son humanité, parce que quand le malheur, la difficulté en fait sont votre quotidien, qu'est-ce qu'il en faut comme force à la fois physique et mentale pour résister, pour ne pas justement basculer dans la folie. Et ça a été le cas de ma mère, ça a été aussi mon cas, dans une moindre mesure, c'est-à-dire rester campé, dans le réel, s'y accrocher et ne surtout pas justement basculer dans un espace peut-être confortable. C'est pour ça que je m'interroge à un moment donné dans l'ouvrage, quoique la folie, doive être, je ne sais plus quelle est la formule que j'utilise d'ailleurs.
Ce moment où vous parlez de la drogue.
Oui, c'est...
Non pas la drogue que vous auriez jamais
vraiment
consommée.
Non, mais même à l'entame du livre, la folie doit être
beau refuge.
Oui, quelque chose de confortable d'ailleurs, puisque on n'a plus conscience de rien.
Mm-hmm.
D'ailleurs, on s'est souvent posé la question justement de est-ce que ce ne sont pas nous, individus beaucoup trop lucides, qui ne sommes pas fous finalement?
Votre travail, à vous, Aya Sissoko, c'est un travail résolu de plus en plus de lucidité, donc sans doute de plus en plus d'inconfort.
J'adore cette expression qui dit Ignorance is a blessing. Enfin, l'ignorance est une bénédiction d'une certaine manière. C'est vrai que avoir conscience des choses, ben, peut être difficile parce que on est continuellement, en fait, d'une certaine manière, sollicité émotionnellement, acculé, et ça épuise le corps, ça épuise la tête. Et donc, parfois, on a envie de d'appuyer sur le bouton pause. Et de se dire, j'ai besoin d'un peu de récupération. Là.
Vous parlez du sommeil ainsi. Oui. On pourrait clore cet entretien à Yassi Soko par cette profession de foi rationaliste, en fait. Oui. La lucidité est un combat.
La lucidité est un combat, ça suppose continuellement de sortir de sa zone de confort, de s'extraire aussi de la temporalité qui nous a imposée, prendre ce recul nécessaire, écouter l'autre. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Les livres sont nécessaires, mais si on ne confronte pas justement cette connaissance, en fait, pédagogique avec la réalité du terrain, ça ne vaut pas grand-chose.
C'est sur ces mots que nous allons clore cet entretien. Yassi Soko, je vous remercie.
Je vous remercie.
Je renvoie Yassi Soko à vos livres. Damben, Ba, Au nom de tous les tiens. Je renvoie également au numéro 174 de Raison Présente, Racisme, Race et Sens Social, comme je renvoie au site de l'Union Rationaliste où vous pourrez retrouver les deux premiers entretiens avec Yassi Soko, celui du 22 mai 2011 et celui du 27 mars 2016. Vous pourrez également y lire nos éditoriaux et nos différentes publications. Je remercie sur France Culture Peyrée Legras, Claire Poinsignon et Marie-Claire Oumabadi qui ont rendu possible cette émission et à l'Union Rationaliste Roland Lemoine qui anime si bien le site. Je vous dis au mois prochain.